Comment filmer le conflit sans le montrer? Comment raconter ce que l'on est sans se laisser enfermer dans une identité? À partir de 12h55, rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste Elia Souleymane, réalisateur palestinien qui croit aux vertus de l'absurde et de la poésie pour raconter son monde et le monde qui l'entoure. It Must Be Heaven, son nouveau long métrage, couronné à Cannes d'une mention spéciale du jury, sort en salle ce mercredi. Mais d'abord, 40 ans directeur de l'Orchestre National de Lille, il a quitté cette maison d'un demi-pied il y a 3 ans, mais pas posé sa baguette. Pour autant, toujours directeur artistique du Lille Piano Festival et président d'une école de musique, il sera l'un des invités phares du festival transsibérien qui se tiendra à Lille à partir du 12 décembre. Son grand-père était compositeur, ses petits-fils sont musiciens, aujourd'hui patriarche d'une famille partition. Jean-Claude Casadesus est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Festival.
Et bonjour Jean-Claude Casadesus.
Bonjour cher ami.
Bienvenue autour de cette grande table. Un festival, le festival transsibérien créé en 2004 à l'initiative du violoniste Vadim Ripine, qui fait presque un tour du monde selon les stations où il s'arrête, ce transsibérien. Cette année, il y aura un arrêt à Lille, votre ville Jean-Claude Casadesus. Dans une dizaine de jours donc, vous embarquerez à bord de ce transsibérien virtuel. Quel voyage musical allez-vous réaliser et à quoi nous invitez-vous?
Alors écoutez, mon ami Vadim Ripine a créé ce festival qui correspond, je crois, dans une large mesure à l'éthique que nous partageons, c'est-à-dire évidemment la qualité la plus haute qu'on puisse atteindre, mais aussi un regard particulièrement tourné vers la jeunesse. Or son festival en effet s'exporte non seulement dans un grand pays, dans un grand nombre de pays d'Europe, mais nous avons eu l'idée, puisqu'il m'avait invité chez lui à participer à son festival, de faire un arrêt jeunesse à Lille. Et pourquoi Lille? Vous savez que Lille est quand même
une ville étudiante aussi.
Ville étudiante, ville de grande jeunesse avec beaucoup d'étudiants, là, un conservatoire formidable, l'école supérieure musique et danse dont je suis président, et cette région, la région des Hauts-de-France, est parvenue aujourd'hui, je crois, au plus haut niveau de la culture. C'est la région, je crois que c'est la région, 6 millions d'habitants, la plus culturelle de France. Donc nous avons eu l'idée de proposer 3 jours de masterclass, de 2 concerts, et avec le but de permettre à des jeunes qui ont déjà fait la preuve de leur talent de pouvoir participer à cette aventure. Ce qui m'a amené à je partagerai les concerts que je dirige avec un jeune chef talentueux qui s'appelle David Mollard, avec une partie de son orchestre qui est l'orchestre des jeunes de l'Île-de-France, avec un orchestre qui vient d'Ekaterinbourg, de jeunes, et un orchestre du Haut-Cambrésis qui est un orchestre d'harmonie, de musiciens triés sur le volet, mais il n'y a pas de cordes. Et donc ces 3 éléments vont se réunir pour un programme avec Vadim Ripine, avec Alexandre Kniazev, avec Nicolas Angelich,
au piano, Alexander Kniazev.
Et Korobenikov aussi au piano, et une autre violoniste qui s'appelle Clara Jomikang, avec de la musique de chambre qui intégrera des étudiants, avec des masterclass qui évidemment, avec des musiciens triés sur le volet, permettront de rentrer en contact avec ces très grands musiciens.
Alors on va entrer un peu dans ces 2 concerts que vous donnerez, l'un le 14, l'autre le 12.
Et le 13.
Le 13.
Le 12 sont les masterclass.
Alors le 13, pardon.
Le 13.
Le concerto pour violon de Sibelius et les tableaux d'une exposition de Moussorgski, ce sera
le 13.
Le 13.
Avec aussi une œuvre de Gara Karaïev, qui s'appelle qui est une valse tirée du ballet Les Trois Beautés et qui sera dirigée par mon jeune ami David Mollard.
Allez, on entre dans le tableau avec Moussorgski.
Thank you.
soit de l'une des œuvres au programme du Festival Transsibérien. Ce sera le 13 décembre, concert que vous dirigerez, Jean-Claude Casadesus. La grande porte de Kiev, ça sent le final. Et ça l'est en effet des tableaux d'une exposition de Moussorgski. Ici avec l'Orchestre National de France. C'était dans le grand auditorium de Radio France en 2016, dirigé par... la direction vous semble bonne ?
Je trouvais ça pas trop mal, oui. Je trouve cet orchestre magnifique. Je l'adore. Et il paraît que vous me dites que c'était moi.
Voilà.
Alors je suis pas vexé.
Non, ben non, il y a vraiment pas de quoi. Alors ce sera notamment un mot peut-être de ces tableaux, d'une exposition, de ces 6 pièces pour piano qui seront jouées dans l'orchestration de...
Les pièces pour piano, non, mais c'est-à-dire que ça, c'est la version qui a été orchestrée magnifiquement par Maurice Ravel. Et vous savez que Hartmann était un grand ami de Moussorgski, qui était un architecte dessinateur, et dont Moussorgski a voulu, au cours d'un certain nombre de tableaux, peindre, au fond, des scènes de la vie ordinaire avec... des évocations des Tuileries, avec des évocations de personnages qui s'affrontent, d'un vieux chariot polonais. Enfin voilà, il y a toute une cinématographie musicale et qui est surtout pour des jeunes musiciens une formidable occasion de montrer leur qualité, parce qu'il y a une pédagogie, si vous voulez, dans cette œuvre qui met tous les musiciens de l'orchestre en valeur à un moment donné.
Voilà, et Moussorgski, qui avait en commun avec Victor Hartmann d'être un passionné de l'art russe, c'est ce qui vous rapproche aussi, Jean-Claude Casadesus, de cette culture. C'est à travers l'art russe que vous avez appris à aimer cette culture et ce peuple, ce pays. Ben,
vous savez, j'ai du sang russe dans les veines, puisque ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était russe, et que voilà, j'ai du sang catalan, alors je suis un mélange.
Et du sang montmartrois.
Et du sang, moi, alors je me définis comme un russo-catalan né à Montmartre, et finalement le Nord a joué un grand rôle dans ma vie, le Nord de Paris et le Nord de la France, avec cette ville que j'aime, qui est Lille.
Avec l'ONL.
Et cette région, ouais. Avec l'ONL.
Avec l'ONL, vous avez fait le tour du monde pour des publics de toute nationalité, l'Orchestre National de Lille. Mais vous avez aussi, vous, dirigé des orchestres internationaux, comme le Philharmonique de Saint-Pétersbourg ou le Symphonique de Berlin ou de Philadelphie. Qu'est-ce que ça change de jouer pour un public d'une autre nationalité ou de diriger un orchestre qui n'est pas français?
Mais vous savez, la musique, c'est un lieu commun que de le dire, est un langage international. Donc il suffit dans les gestes et éventuellement dans le regard de transmettre la pensée du son qui nous habite. Chaque musicien a une technique qui est la même pour nous tous, puisque le solfège, vous savez, la première ligne qui est écrite dans le solfège de Lavignac, par exemple, c'est la musique, c'est le respect des valeurs. Donc chaque musicien a devant son pupitre des croches, des doubles croches, des triolets, des blanches. Il appartient au chef d'orchestre de les faire vivre, de les sortir de leur univers carcéral et d'essayer de faire jouer ce qu'il y a entre les notes, c'est-à-dire de parvenir à la métaphysique musicale qui est l'au-delà du réel. Mais ça, c'est international. Vous regardez les musiciens, ils vous regardent, ils se disent « qu'est-ce qu'il va m'apporter celui-là ?» Vous levez la baguette, vous lisez, si j'ose dire, vous savez, vous lisez l'ensemble de l'œuvre pour montrer votre conception, si vous en avez une, et après, vous peaufinez. Vous peaufinez en mettant en essayant de fédérer totalement toutes les énergies d'un orchestre, mais tous les musiciens du monde, tous, sans exception, qui ont eu une instruction musicale, se retrouvent internationalement quand il s'agit de transcender la musique.
Vous avez vécu cette année une expérience très particulière, c'était à Rabat. Vous avez dirigé l'Ave Maria de Caccini au centre de formation des imams devant le pape et le roi du Maroc avec l'orchestre et les chœurs du Philharmonique du Maroc. 3 chanteurs aussi vous accompagnaient, 3 chanteurs de confessions religieuses différentes, chrétiennes, musulmanes et juives, dont votre fille Caroline Casadesus, Smaï El Arati et Françoise Atlan avec la pianiste Dina Ben Saïd. On en écoute un extrait. Est-ce que vous avez vécu là, Jean-Claude Cazetsu, quelque chose de sacré ?
Écoutez, j'ai eu le sentiment, en effet, de participer à un moment historique. Et en dehors de toute croyance religieuse, c'était tout à fait extraordinaire d'être associé à cette rencontre de deux personnages de confessions différentes, le roi du Maroc et le pape, qui ont décidé, dans une période aussi dangereuse, aussi intolérante, aussi divisée, aussi tragique parfois, d'être les fédérateurs de différentes pensées religieuses qui ont en principe toute la même objectif, c'est-à-dire l'amour humain. Donc il y avait 34 ans qu'aucun pape n'avait mis les pieds au Maroc, et cette réunion au fond spirituelle à travers la musique, qui pour moi, la musique, quand il s'agit de chef-d'œuvre, est une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Donc nous avons été, je crois, nous avons été tous envahis par une très très grande émotion.
Jouer ou diriger devant le pape, c'est une expérience que vous avez déjà vécue?
Oui, ça j'ai déjà vécu. J'ai eu 3-4 moments historiques dans ma vie de musicien. La première fois, c'était en 81, où nous avons été reçus par le pape, en 86 aussi, deux fois, au Vatican, où un de mes musiciens qui était polonais a joué devant lui. Ensuite, j'ai eu la chance d'être associé à la première rencontre, au fond, sur le mur de Berlin, dont on célèbre aujourd'hui la chute. Et j'ai été avec un de mes amis journalistes, pour ne pas le nommer, c'était Jean-Pierre Alcabache, qui m'appelle la nuit dans l'hôtel, qui me dit « Viens, le mur se lève ». Et on a été les deux premiers, je crois, citoyens à franchir le mur de ouest en est. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer au Liban pour le festival de Nora Djoumblat, la femme de Djoumblat, qui a un très beau festival à Beit Aïdin. Un Requiem de Verdi avec des artistes merveilleux, Grace Bambury, Simon Estes, Nadine Denise, enfin voilà, et l'orchestre, mon orchestre et les chœurs de l'Orchestre de Paris. Nous avons joué le Requiem de Verdi dans le Chouf, où malheureusement, quelques années auparavant, tout le monde se massacrait. Donc ça a été des moments transcendantaux, si j'ose dire, à travers la musique, qui me paraît être un vecteur d'union entre les hommes dont on n'a pas encore mesuré toutes les capacités. Et puis cette rencontre avec le pape, le roi du Maroc, l'honneur qui m'a été fait de vouloir participer et honorer cette rencontre, ça a été quelque chose de très beau.
Parce que ce sont des moments où la musique intemporelle, universelle, rencontre aussi les soubresauts d'une époque. Et ça, c'est aussi ce qui l'a fait peut-être résonner différemment. Elle emporte ces moments avec elle.
Je crois que tous les moments tragiques, tous les moments de tension...
Ont besoin de musique.
Ils sont aussi là pour rappeler que nous sommes des êtres humains de chair, de sang, qu'on soit noir, jaune, qu'on soit blanc, et que l'intolérance malheureusement générée par les conflits doit aussi, en corollaire, s'accompagner d'une réflexion sur la possibilité de communier et de se rapprocher. Et la musique, il n'y a pas la subversion des mots, il y a l'extraordinaire subversion des émotions, parce que ça veut dire une note peut transformer l'univers, une note peut tout d'un coup épaissir l'environnement. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le plus court chemin d'un cœur à un autre » et je pense véritablement que la musique, dans son génie, à travers ses chefs-d'œuvre, et offre la possibilité à des hommes de devenir meilleurs et des femmes.
Et le chef d'orchestre, c'est celui qui détient le GPS, hein, qui permet ce cheminement d'advenir.
Il essaye de transmettre, en tout cas, de servir. Vous savez, j'ai quelques devises, mais il y en a une qui est très importante, c'est d'abord porter la musique partout où elle peut être reçue, et ensuite servir, oser, transmettre et obtenir.
Ça, c'est votre devise, Jean-Claude Cazetsu. Vous avez effectivement pris l'habitude d'amener les musiciens et les orchestres et de les faire jouer là où on ne vous attend pas, avec des hôpitaux, des prisons, et un faible quand même pour les stades. À plusieurs reprises, vous avez aussi dirigé dans des stades. Aujourd'hui,
dites-moi. Faible pour la musique transmise à des gens qui pensaient à tort que la grande musique n'était pas pour eux. Mais pour seul objectif, comme d'ailleurs mon ami Vadim Repin, avec lequel nous allons faire ce beau festival, les 12, 13, 14 décembre, c'est-à-dire la qualité la plus élevée dans tous les lieux où on peut la porter. Alors vous disiez que j'avais fait le tour du monde. C'est vrai, j'ai dirigé dans 45 pays personnellement et dans 32 pays avec mon orchestre, et mon ex-orchestre, dont j'ai décidé de transmettre mes responsabilités il y a 3 ans à une nouvelle équipe du 100 jeunes. Je pensais que c'était nécessaire que je prenne cette décision. Mais il est certain que les hôpitaux, les usines, les prisons, ça s'accompagne aussi, pour que ça ait de la valeur, de l'hommage rendu à Salzbourg, au Musikverein, à Carnegie Hall, à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, au Concertgebouw d'Amsterdam, pour que les gens sachent que ce que nous leur proposons a reçu l'hommage des plus grandes places internationales. J'avais un de mes amis qui s'appelait Armand Marquiset, qui était le fondateur des Petits Frères des Pauvres, et lui, il avait une devise qu'il a mise en application, c'était « des fleurs avant du pain ». Le pain, c'est l'utile, les fleurs, c'est le beau. Et je crois qu'il faut en permanence avoir la notion de ce que l'on doit transmettre, de ce qui nous porte, de ce qui nous transcende, dans le partage de ce qui rend meilleur, c'est-à-dire la beauté. Vous avez des gens qui vont dans les musées par milliers, qui vont écouter, qui vont voir des danseurs, qui vont voir des musiciens. Je crois que c'est une nécessité. La culture, souvent malheureusement malmenée, mais est une valeur absolument essentielle pour lutter contre l'obscurantisme.
Je mourrais pour vivre. Vous citez souvent ces mots du chœur de la symphonie numéro 2 de Mahler, extrait du 5e mouvement. On comprend cette idée d'une musique qui insuffle la vie et qui jusque-là permet de ne jamais s'arrêter. Vous qui avez toujours une idée ou une envie d'avance, on imagine que c'est aussi ça qui vous guide. Où est-ce que vous aimeriez demain aller la faire résonner, cette musique, là où pour l'instant la musique est absente ou si silencieuse et où les hommes auraient besoin de l'entendre?
Eh bien écoutez, particulièrement dans les lieux où elle est interdite par des gens qui sont malheureusement dans l'obscurantisme total et l'intolérance. Parce que peut-être qu'à tort, mais en tout cas ils pensent qu'elle est subversive. Pourquoi? Parce qu'elle transmet de l'amour. Et l'amour, c'est la meilleure arme contre la violence et contre la barbarie.
Vous rentrez de Chine, il y a quelques années, vous y étiez déjà, alors que se terminait en partie votre engagement à la tête comme directeur de l'Orchestre National de Lille. Vous aviez fait une grande tournée en Chine pour un public chinois, où vous aviez notamment dirigé la première symphonie de Henri Dutilleux, premier enregistrement réalisé pour vous avec Dutilleux en 77, une longue amitié, une longue camaraderie entre le compositeur
et que j'ai réenregistré très récemment.
premier disque enregistré avec l'Orchestre National de Lille. C'était donc Dutilleux en 1977, compositeur que vous avez récemment retrouvé pour un nouvel enregistrement paru sur le label Naxos avec cette première symphonie et les métaboles. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs en 40 ans dans votre manière d'interpréter ou de diriger Dutilleux? Vous le comprenez autrement?
D'abord, l'écriture impose une réflexion qui, généralement, est assez proche, même à distance, de ce qu'on a pu faire précédemment. Dutilleux était un grand ami. D'ailleurs, c'était très rigolo parce que la première fois où nous avons enregistré cette symphonie, il n'était pas là pour les montages. Et alors, il était très contrarié parce qu'il voulait toujours être présent. Et alors, il me disait, oui, mais tout de même. Mais je lui dis, écoutez, cher Henri, écoutez, puis vous me direz après ce que vous en pensez. Et alors, il écoutait, il disait, ah oui, là, oui, ah bon. Ah bon, oui, ah oui. Ah mais là c'est peut-être ça va, c'est peut-être un peu lent, mais oui, c'est moi qui ai écrit pas trop vite, mais bon, maintenant je suis très content. Bon, il était très exigeant et en même temps ce disque nous a valu pour notre premier enregistrement un grand prix qui a été évidemment un tremplin très très prometteur pour ce jeune orchestre qui n'avait que 2 ans à l'époque et enfin même pas 1 an et demi et voilà, et Henri, je l'ai revu à de nombreuses occasions et j'ai promené dans le monde entier. Alors là, ces métaboles dont j'avais entendu la création sous la direction de Georges Sell en 65 aux Champs-Élysées, et je m'étais dit, oh là là, mais là, quelle œuvre qui le fait rentrer dans le panthéon des grands compositeurs contemporains, il faudra que je la dirige un jour.
Voilà, défendre un orchestre régional comme celui de Lille, ça vous l'avez fait pendant plus d'une quarantaine d'années. Défendre un répertoire français aussi, ça a été important pour vous tout au long de ce parcours. Je me demandais, Jean-Claude Casadesus, après toutes ces années, est-ce que vous avez le sentiment que la place que la musique a prise dans votre vie a évolué?
Elle a évolué dans la mesure où la rigueur qui est fondamentale pour déboucher sur la liberté a été une réflexion quotidienne. Vous savez, le doute, et un artiste qui doute, qui cesse de douter, cesse de progresser, mais peut-être qu'en doutant, on s'approche de l'inaccessible étoile. Donc c'est du travail et encore du travail, comme disait Picasso. C'est aussi essayer de se rapprocher le plus possible de la pensée du compositeur et de vraiment régler ce trinôme qui est l'intuition, l'analyse et la liberté. L'intuition, c'est génital, c'est le ventre, c'est... Et l'analyse, c'est indispensable pour ne pas rester primaire. Et si on reste à l'analyse, on est parfois didactique et il faut essayer de trouver les chemins de la liberté.
D'ailleurs, vous placez toujours au cœur de cette parole autour de la musique l'émotion. Est-ce qu'il arrive à un chef d'orchestre parfois de pleurer? Comme vous nous tournez le dos, c'est difficile de voir ou de savoir. Est-ce qu'il vous arrive, pendant un concert, de vous laisser submerger par une émotion? Ou est-ce que orchestrer, c'est aussi un art de la maîtrise, à commencer par ses propres sentiments?
Écoutez, c'est un art de la maîtrise, mais vous avez raison, et c'est tout récemment, et c'est sans doute quand on a peut-être, ou si on est en décalage horaire, ou si le jet lag a été trop dur, ou si on n'a pas assez dormi.
Comme aujourd'hui.
Mais tout récemment, j'arrive, comme vous le disiez, de Chine hier, je descendais de l'avion, j'ai eu l'occasion de faire un concert qui m'a totalement ravi avec des musiciens exceptionnels, l'orchestre du TSO de Taïwan, qui m'avait il y a quelques années d'ailleurs proposé la direction de leur orchestre musical, mais j'avais renoncé pour me consacrer à celle de mon orchestre à Lille, et tout d'un coup j'ai été submergé tellement c'était beau par des larmes qui me sont montées aux yeux. Alors dans ce cas-là, je me mords pour ne pas, tel le pilote qui doit conduire son vaisseau au milieu du chant des sirènes, ne pas se laisser submerger et éventuellement noyer par une distraction qui serait préjudiciable à la qualité.
Il y a beaucoup de musique en ce moment sur les antennes de Radio France, dans le cadre d'un mouvement de grève lancé par plusieurs organisations. La musique, comme la radio, pour vous Jean-Claude Casadesus, c'est un service public?
La musique, elle est au service du public et c'est à nous, je crois, les interprètes, de faire en sorte que du plus favorisé comme au plus démuni, chacun puisse avoir accès à cette émotion. C'est pour ça que je m'honore d'avoir été dans le Nord, je crois, un des premiers à emmener dans des lieux complètement de souffrance ou des lieux de travail, des lieux où la culture ne rentrait pas, de pouvoir emmener un orchestre qui m'a permis d'illustrer cette phrase de Malraux que j'aime beaucoup. On peut être tenté d'aimer que le mot art puisse donner à des gens le sens de la grandeur qu'ils ignorent en eux.
Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Casadesus.
Alors venez à mon festival, hein, surtout.
Ben lequel
12, 13, 14 décembre.
Voilà.
Avec des très très grands artistes.
Mais oui. Ce sera à Lille.
Répine, hein. Angelich, Korobinikov, voilà. Et Kniazev. Et pour tous ces jeunes que nous avons envie de transcender aussi.
Le train musical s'arrêtera donc à Lille et on pourra vous y retrouver pour deux concerts, vous notamment, les 13 et 14 décembre. Merci à vous, beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.